Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Là, j'arrive devant Nelson et en fait, j'avais pas prévu tout ce que j'allais lui dire. J'étais là, j'étais juste au fond du trou. Au fond du trou parce que cet objectif de 5 ans était pourri par un blocage qui était arrivé une semaine avant les JO. Et clairement, quand il me pose une question, je me dis, bon, bah, je vais rien dire. Et puis là, je tombe en pleurs et là, je fais, allez, laisse tomber, c'est bon. Je le dis et voilà. Et c'est là qu'on m'a dit que j'étais un chouineur et tout. Je sais pas si ça m'aide, je sais pas si c'est une thérapie limite de s'exprimer comme ça devant les médias, mais en tout cas, je crois que ça m'a réussi.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Je suis très fier de recevoir un recordman du monde, oui, du monde, dans Histoire de Mec aujourd'hui, en la personne de Kevin Mayer, recordman du monde de Décathlon, rien que ça. Et je voudrais remercier chaleureusement Gillette, qui est le sponsor de cet épisode, en plus d'être le sponsor de Kevin. Gillette accompagne les hommes dans leur quotidien depuis sa fondation en 1901, et vous avez peut-être suivi ces dernières années à quel point la marque avait bougé pour suivre l'évolution des masculinités en France et dans le monde. Gillette a aussi toujours accompagné des sportifs et des événements sportifs, et forcément, les JO de Paris 2024 ne feront pas exception. Merci à Gillette pour son soutien d'Histoire de Mec. Je suis très fier de ce partenariat. On va réaliser ensemble quelques épisodes d'ici la fin d'année, et très heureux que la marque m'ait proposé ce moment privilégié en compagnie de Kevin Mayer. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de ce mec génial qu'est Kevin. Kevin, bienvenue dans Histoire de Mec.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup d'être là et de venir parler de masculinité. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Kevin, t'es décathlonien. C'est ça, c'est ton métier.
C'est ça.
Et t'as un palmarès incroyable. T'es deux fois vice-champion olympique, recordman du monde de décathlon, parce qu'il y a des points, on va en parler juste après. T'es le premier gars à avoir passé la barre des 1900 points, c'est ça, si je me trompe pas ?
Des 9100 points.
Des 9100 points. J'ai dit quoi ? 9100
points. 1900 points.
Non, pas du tout. 9100 points. Je suis un peu dyslexique avec les chiffres.
Ouais, y a pas de souci.
Et toi, t'es obligé, en revanche. Toi, t'es au taquet, vraiment.
Sur les chiffres. Moi, je suis dyslexique avec les noms. Chacun son problème.
Donc ouais, effectivement, t'es recordman depuis 2018 et ton record tient toujours depuis. Et en fait, effectivement, je trouvais ça hyper intéressant de te faire parler à la fois du décathlon bien sûr et parce que je crois que c'est un de tes trucs aussi de faire connaître les décathlons.
Complètement.
Mais aussi de masculinité, comment tu t'es construit, toi, en tant que mec? J'ai l'impression que tu as plein de belles valeurs. J'ai écouté un petit peu à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui t'animent et qui font partie de toi. Et notamment aussi à travers ta pratique du décathlon. Mais peut-être avant ça, tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le décathlon pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quoi.
Alors, le décathlon, c'est une épreuve d'athlétisme qui en regroupe en fait 10 en 2 jours. Donc, on commence par le 100 mètres. On fait le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur et le 400 mètres la première journée. Et la deuxième journée, on commence par le 110 mètres haies, puis le disque, puis la perche, puis le lancer de javelot et on termine par un 1500 mètres.
Incroyable.
Voilà, c'est très complet, c'est passionnant à faire. J'imagine que vous pensez à la difficulté tout de suite, mais il faut bien se rendre compte que l'envergure de ce sport est incroyable par sa... S'exprimer en décathlon, c'est incroyable parce qu'on fait tous les gestes en fait.
C'est-à-dire ?
Tout simplement, j'ai fait plein de sports quand j'étais petit et je m'ennuyais à l'entraînement parce que c'était un peu tout le temps le même geste. Et quand je suis arrivé à l'athlétisme, où on m'a fait essayer des lancers, des sauts, des courses différentes chaque jour, je me suis rendu compte de la richesse de ce sport. Et j'ai jamais voulu me spécialiser parce que je trouvais que c'était ça la beauté du sport en fait, c'était de faire plein de choses différentes. Et je me suis complètement émancipé dans ce sport.
Ok. T'as 31 ans, c'est ça aujourd'hui ?
C'est ça.
L'objectif, j'imagine, pour toi, c'est Paris 2024, là.
Tout de suite, ouais. Là, ça y est, on rentre dans les 10 mois avant la compète, donc là, ça commence à monter.
Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire les JO à Paris en 2024 ?
Pour moi, ça représente une opportunité assez exceptionnelle de vibrer et que mes vibrations se transmettent à travers le stade et à travers votre écran de télévision. J'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France en France, Il n'y a pas eu de championnat d'Europe, il n'y a pas eu de championnat du monde. Donc je passe direct au jeu. Donc je connais, je sais pas ce que c'est, mais j'ose imaginer que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Mmh. Beaucoup de pression, mais je préfère me sentir soutenu que d'avoir un poids sur les épaules. Donc je dirais plutôt que c'est un plaisir d'y aller, même si quand on pense à l'objectif, ça peut faire un peu peur. C'est surtout l'instant présent dans le stade qui rend la chose alléchante pour l'instant.
J'ai un peu l'impression que tu as une pratique du sport qui est surtout tournée vers ton kiff à toi. Et peut-être je me trompe, hein, tu vois, mais de ce que j'ai pu t'entendre parler, il y a un vrai truc où, moins que les performances, finalement, il y a aussi ce truc de... En fait, l'important, c'est d'abord kiffer, puis peut-être les performances viendront avec, quoi.
C'est difficile d'avoir une vie accomplie, je pense, si on ne profite pas de l'instant présent. Et si on ne se rend pas compte de l'importance, comment dire, de profiter de l'instant présent. Et c'est vrai que quand les athlètes parlent beaucoup de médailles, j'ai l'impression qu'ils ratent le plus important, c'est-à-dire le moment où ils s'expriment physiquement pour qu'il y ait la médaille au bout. Parce que quand on l'a autour du cou, c'est clairement fini le moment. Donc j'essaie vraiment de savourer le chemin et pas que la finalité de cette médaille, parce que au final, même quand je rate et que je n'ai pas de médaille au bout, c'est le chemin qui a rendu la chose intéressante et c'est pour ça que j'arrive à me relever quand je rate et que j'arrive à repartir quand je gagne.
Là, par exemple, cet été, tu étais donc au championnat du monde. Tu as dû abandonner parce que tu t'étais blessé au tendon d'Achille, c'est ça, si je
ne
me trompe pas ?
Exactement.
Comment tu vis à ce moment-là cet échec ? Est-ce que tu te dis, OK, bah, en fait, c'était intéressant parce que j'ai travaillé pendant X temps pour pouvoir en arriver là. Le jour même, ou les deux jours, parce que ça dure, les deux jours même, ça ne passe pas. Il faut se relancer.
C'était très compliqué cet été parce que c'est la première fois que je prends du recul et que j'abandonne avant que ce soit vraiment l'échec. En 2019, je suis allé au bout de moi-même jusqu'à ne plus pouvoir courir à Doha au championnat du monde. J'étais à la 7e épreuve à la perche. J'avais le tendon d'Achille, le même, au bout du rouleau et je ne pouvais plus marcher. Là, j'ai dû arrêter avant d'être dans cet état-là et on dit que le décathlon, c'est dur quand on le termine. Mais c'est encore plus dur de l'arrêter pendant et surtout quand on a encore les capacités physiques. Donc, j'ai fait un choix vis-à-vis de Paris pour être sûr d'avoir aucune dette cette année physique pour bien m'entraîner avant Paris. Mais pour être honnête, j'ai préféré Doha par rapport à là parce que la douleur physique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie en général et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aller au bout de moi-même. Mais alors, arrêter avant que ce soit...
Insupportable, c'est ça.
Insupportable, c'est ça. C'est ce qui a été le plus dur au final et c'est ce qui a créé cette frustration qui me donne qu'une envie au final, là, c'est d'y retourner.
T'as l'impression que à 31 ans, t'es un peu plus à l'écoute de ton corps que tu l'étais à 20-25 ans, quoi. Tu fais attention à ça ?
Je suis obligé d'être à l'écoute de mon corps totalement, tout le temps. L'expérience fait que je connais un peu plus mes limites et c'est vrai que j'ai tendance à aller de moins en moins dans le rouge. Ce qui pourrait me permettre de durer beaucoup plus dans le temps dans ma carrière.
Et c'est un de tes objectifs ou alors tu te dis faut autant aller brûler tout ce qu'il y a à brûler à ce moment-là quoi et de kiffer le moment.
Moi je veux prouver qu'à travers ma préparation physique, à travers mes entraînements, on peut durer très longtemps. Donc c'est un des gros challenges pour moi, c'est de prouver aux gens que si on fait les bonnes choses, on peut être très performant pendant très longtemps. Donc clairement je veux faire en sorte de durer dans le temps et de durer dans mes résultats aussi.
Ok, bon, on va parler de tout ça. La première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un homme, Kevin ? C'est une grosse question. Hein.
Alors pour moi, être un homme, c'est très philosophique. Mais comment dire ? Pour moi, être un homme, c'est être en accord avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui se créent une personnalité pour exister vis-à-vis de la société. Et lorsqu'on commence à assumer ses faiblesses et à les, comment dire, tellement on les assume, à faire en sorte de pouvoir parler de tout sans jamais se dire, sans jamais avoir une image de soi qui baisse. Pour moi, c'est ça être un vrai homme. Et ensuite, c'est avoir la force de caractère pour avoir ce recul sur ses faiblesses et faire en sorte de devenir un meilleur homme chaque jour.
D'où ça te vient, cette philosophie de ton propre père ? Il est comme ça, ton daron ?
Non. Okay. Pour être honnête, mon père, c'est l'inverse. Il ne s'exprime jamais.
Okay. C'est un rock.
Il n'a jamais de problème, c'est un rock.
Ouais.
Mais comment dire ? c'est cette histoire me vient en fait, je dis pas que mon père est pas comme ça et qu'il est pas en accord avec lui-même, mais je dis qu'il s'exprime pas sur ses problèmes. J'ai l'impression qu'il est en accord avec lui-même, donc pour moi c'est un homme. J'ai rencontré des gens qui, comment dire, se sont rendus compte que exposer leurs faiblesses pouvait leur revenir à la tête, et du coup ils se sont créés une personnalité tout autre. Et on commençait à mentir totalement, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'est pas en accord avec soi-même, on ment sur ses émotions, du coup on ment sur ses, au final sur ses actes, parce que au final, quand on n'est pas en accord avec soi-même, quand on est tout seul, on fait des choses, mais jamais on l'admet aux gens, donc on a une vie secrète qui au final ne peut jamais être dévoilée, donc au final on se ment tout le temps à soi-même en fait.
Et on part vivre dans un mensonge perpétuel, quoi.
Et c'est vrai que dans le décathlon a amené pas mal de difficultés à ma vie, je vais pas le cacher. Je passe des bons moments, mais aussi de très mauvais moments. Et avoir accepté de le partager avec tout le monde au travers des caméras, des médias, etc., sans arrêt mes faiblesses. Certains diront que je suis une chouineuse, etc. Mais non, en fait, je veux juste être sincère sans arrêt.
C'est même pas chouineur, hein, c'est chouineuse, hein, tu vois.
C'est-à-dire. Oui, exactement. On me dit, non, mais là, je dis, il y a vraiment, c'est ce que les gens me disent.
Oui, j'entends bien.
Je suis une chouineuse, quoi. J'ai pris ce parti d'être honnête. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis en accord avec moi-même sans arrêt. Et c'est difficile dans le sport de haut niveau parce que quand on fait du media training, etc., on vous dit clairement, il faut dire ça, il faut dire ci, il faut rester tout le temps dans les cadres. Non, moi, je suis vraiment en freelance là-dessus. C'est-à-dire que, en fonction de mes émotions, en fonction de mon mindset quand j'arrive devant une caméra, ben je vais dire quelque chose de totalement différent et je vais vraiment dire ce qui me vient à l'esprit et pas
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ce qu'on pourrait s'être conditionné à dire dans ce moment-là pour paraître la meilleure personne, la personne que les gens en fait ont envie de voir.
Ouais. Et toi, t'as décidé d'être juste authentique. Ça te réussit pour l'instant, t'as l'impression, à 30 piges, 31 ans?
Je pense que l'authenticité me réussit parce que les gens voient dans mes paroles que je suis vrai. Je pense que dans l'expression, quand on dit des choses qui sortent du cœur, ça n'a pas la même intonation que quand c'est des choses qui sont réfléchies, des choses qui sont apprises par cœur.
Ouais.
Et je pense que cette touche émotionnelle que je peux mettre dans mes mots a touché le grand public et j'ai beaucoup, très 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 beaucoup de bons retours.
Okay.
Bon, bien sûr, il y a toujours des critiques, mais on peut pas non plus plaire à tout le monde et c'est pas ce que je cherche.
Oui.
En fait.
Ça n'a pas l'air de t'intéresser des masses.
Ça va.
Je me souviens en particulier d'un moment où j'étais devant ma télé au JO de Tokyo en 2021. J'imagine que tu sais de quoi je vais parler. C'est que tu te pointes devant Nelson Montfort. Donc c'est après ta première journée où tu as un problème de dos, c'est ça si je ne me trompe pas. Et en fait, tu lâches les chevaux là. Il y a un moment donné où tu fonds en larmes en fait, tout simplement devant la caméra. Incroyable.
Bah en fait le truc c'est que c'est ça, on était avec mes deux coachs et j'étais bloqué du dos et pendant une semaine j'étais bloqué du dos hein, avant les JO. J'avais fait une séance de pliométrie où j'avais fait un mauvais geste et d'un seul coup un gros pincement au dos. Je suis resté allongé pendant une semaine sans faire de sport, sans rien avant les JO, donc vraiment
dur.
Le temps d'attente horrible et puis clairement pas l'impression de pouvoir être contenders dans la compète à cause de ça. Et je disais rien à personne, je gardais ça pour moi, j'en parlais juste avec mes deux coachs, et c'est vrai qu'il y avait un de mes coachs qui était là, qui disait non, faut pas qu'on le dise, et j'étais là, et quand on me connaît, moi déjà à cette période-là, j'étais déjà là en train de me dire j'ai envie d'être en accord avec moi-même, que tout le monde sache et que je m'en fous s'ils me jugent, je préfère pouvoir m'exprimer peu importe sur quoi. Et c'est vrai que là, j'ai rien dit. J'arrive aux 100 mètres, je fais un temps pas horrible, mais je sens que je peux pas m'exprimer en fin de course. Quand t'arrives en survitesse, clairement, le dos joue un rôle très important, donc ça va pas. Au 100 longueur, je dois rapprocher mes marques de 2 mètres par rapport à d'habitude parce que mon blocage au dos changeait ma foulée. Et là, au poids, j'ai pratiquement impossibilité de lancer, quoi. Donc, clairement, à ce moment-là, je prépare les jeux depuis 4 ans, depuis 5 ans, puisque c'était en 2021, ça avait été reporté d'un an. Là, j'arrive devant Nelson et en fait, j'avais pas prévu tout ce que j'allais lui dire. J'étais là, j'étais juste au fond du trou. Au fond du trou parce que cet objectif de 5 ans était pourri par un blocage qui était arrivé une semaine avant les JO. Et clairement, quand il me pose une question, je me dis, bon, bah, je vais rien dire. Et puis là, je tombe en pleurs. Et là, je fais, allez, laisse tomber. C'est bon. Je le dis et voilà. Et c'est là qu'on m'a dit que j'étais un chouineur et tout. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai tout dit. Et 10 minutes après, j'étais là et j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour optimiser mon état physique, pour être le mieux possible fin de première journée et la deuxième journée. C'est tout. Et je sais pas si ça m'aide, je sais pas si c'est une thérapie limite de s'exprimer comme ça devant les médias, mais en tout cas, je crois que ça m'a réussi.
Ça, et t'as la sensation que de t'être exprimé comme ça, ça t'a redonné une autre énergie pour le lendemain, parce que bah, tu finis quand même vice-champion olympique, ce qui est quand même pas dégueulasse comme résultat.
Ouais,
quoi.
Après, les deux épreuves où j'ai pu m'exprimer, au final, c'est là où le corps reste le plus à la verticale, c'est le saut en hauteur et le javelot.
Ouais.
Bon, le javelot, j'avais un peu mal au dos, mais j'ai été très très bon techniquement, donc ça allait. Pour être honnête, ça a pas été des beaux JO, hein. J'ai pas fait des grosses perfs à part dans ces deux épreuves où je fais 2,08 à la hauteur, très bonne, et mon record au javelot. Le reste était pas bon. Et pour être honnête, c'était vraiment pas une bonne compétition. J'ai pas fait un gros score et tout. Mais j'ai assuré la médaille de vice-champion olympique. On va pas se cacher que j'avais un énorme potentiel cette année et qu'il a été totalement gâché par ce blocage. Mais encore une fois, c'est le chemin des fois est plus important que la médaille. Et on apprend toujours de ses erreurs. Donc clairement, j'ai appris beaucoup de ces 15 derniers jours avant les JO.
Ok. T'as l'impression aujourd'hui, enfin tu disais tout à l'heure, c'était à peu près le moment où je me disais en fait j'ai vraiment besoin d'être en accord avec moi-même. T'as l'impression que depuis 2 ans là, t'as embrassé un peu ce truc, cette vulnérabilité que t'as là.
Bah en fait je me suis rendu compte que c'est ça. On est vulnérable vis-à-vis des choses qu'on contrôle pas et dans le sport il y a toujours des choses qu'on contrôlera pas. Et à partir du moment où on a accepté le fait que ça allait pas forcément tout le temps bien se passer, parce qu'on va pas se cacher que j'ai réussi beaucoup de championnats et que tout se passait parfaitement, mon record du monde, c'est j'étais sur un nuage, etc. Il faut aussi accepter l'inverse. Il faut accepter qu'à des moments, tout va mal se passer et que c'est une histoire de probabilité. Donc, plus ça se passe mal, plus on touche le fond, plus la remontada sera émotivement jouissive.
Ouais, ok. T'as grandi entouré de frères ?
Ouais.
C'est ça ? T'as combien ? T'as 3 frères, c'est ça ?
J'ai 3 frères, ouais. J'ai un petit frère et 2 grands frères.
Ok. Et si j'ai bien compris, en fait, vous aviez une ambiance entre frangins qui était hyper positive ?
Hyper positive. On chamaillait, bien sûr. Oui. Hein, on vit ensemble. La vie en communauté, dans une famille, c'est toujours compliqué, mais on avait des centres d'intérêt qui se croisaient et c'est vrai que je pense que mes parents ont créé l'atmosphère pour qu'on puisse se développer ensemble et qu'on puisse devenir meilleurs amis en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est pu s'éloigner les uns des autres pour mieux se retrouver. Mais en fait, je pense que quand on a commencé à ne plus vivre ensemble, on s'est rendu compte de la valeur de nos liens entre frères, de nos liens du sang, mais surtout de nos liens d'amitié, de ce qui nous rapprochait. Et c'est vrai que ces moments, on a commencé à vouloir les rechercher beaucoup plus souvent, c'est-à-dire on se faisait des week-ends ensemble, on essayait de recréer tout ce qu'on avait vécu, notamment ces fameuses vacances où on partait en camping-car à 5 dans les pays européens où on vivait le rêve, vraiment, c'était vraiment sympa.
Qu'est-ce que tes parents ont fait, t'as l'impression, pour que vous deveniez meilleurs amis entre frères ? Parce que franchement, j'ai un peu l'impression que le reste du monde incite les mecs à plutôt se chamailler et à plutôt être, tu vois, de montrer qui a la plus grosse, etc. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a un vrai truc positif avec tes frères.
Ah, je sais pas. Quand je dis qu'ils ont mis une ambiance pour qu'on puisse s'entendre, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est le hasard qui a fait que nos caractères soient compatibles. Mais il en est ressorti une grosse amitié et c'est vrai que, pour être honnête, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que bah, les sécrétions hormonales des hommes nous font avoir parfois un comportement et des paroles qui dépassent largement la nécessité de notre société. Et je retrouve pas ça dans ma famille. Je retrouve surtout des efforts pour que chacun se sente bien. Et c'est peut-être la bienveillance. C'est peut-être ça que nos parents nous ont inculqué. C'est que la bienveillance envers les autres amène des bons moments. Et c'est ce qu'on recherche sans arrêt.
Ok. Mais c'est dur parce que j'ai un peu l'impression que tu as le reste du monde contre toi qui te montre comment c'est être un homme. Et globalement, il y a assez peu de bienveillance d'une manière générale dans le comportement masculin, quoi.
Ah, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est les moins bien intentionnés qui sont toujours les plus bruyants et que le pourcentage de pas bien intentionnés est pas haut. Mais comme ils sont bruyants, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce monde, mais que les personnes réfléchies et gentilles sont beaucoup, plus en retrait. Donc, on les voit beaucoup moins. Mais elle travaille en sous-marin et pour ça, je suis assez optimiste là-dessus. Et c'est vrai que je pense que quand on commence à ignorer les grandes gueules, on se rend compte que les gens silencieux font un beau travail et au final, qu'il y a beaucoup de belles personnes dans ce monde.
Comment la pratique du décathlon a forgé le mec que tu es aujourd'hui ?
C'est Santoro qui l'a dit hier, j'étais en conférence avec lui.
Ouais. Fabrice Santoro, donc, qui est champion de tennis, hein,
ouais,
pour le coup.
Exact. Il a dit j'ai fait 21 ans d'études, parce qu'il a eu 21 ans de carrière en tennis, et je me suis retrouvé là-dedans parce que j'ai tout appris au décathlon. J'ai passé mon bac scientifique, j'ai tenté de faire des études, mais j'avais pas le temps avec le décathlon. Et la notion d'apprentissage que j'ai eue au décathlon par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, bon, bien sûr, j'ai appris à l'école. Mais ça a été incroyable, et surtout dans le dépassement de ses limites, dans l'adversité positive. J'appelle l'adversité positive, en fait, c'est réussir à utiliser son adversaire pour devenir toi plus fort que tu ne l'étais hier. Et c'est ça que moi je vois dans le sport, c'est ça que les autres sportifs voient moins. J'ai l'impression d'être un peu tout seul là-dedans. C'est que moi, le jour où je me bats moi-même, je suis beaucoup plus heureux, même si je me suis fait défoncer par un mec que je bats d'habitude et qui a battu son record de 10 secondes, par exemple.
Okay.
Mais tant que moi, ça m'a permis de battre mon record, je suis très heureux, en fait. Et donc, je me suis perdu dans mes pensées, je ne sais plus la base de la question.
Non, mais je me demandais un petit peu comment ça avait forgé le mec. Tu vois, ta pratique du décathlon avait forgé le mec.
Ça a été un apprentissage de tous les jours, en termes d'expression orale, en termes de dépassement de ses limites. En termes de réflexion, parce que en fait, je dis qu'il y a des caps, il y a des il y a des abonnements, en fait.
Des abonnements.
Des abonnements bronze, silver, gold, premium, platinum. Et en fait, plus tu passes d'heures dans ton sport, plus tu auras un abonnement haut. Mais plus tu te rends compte que cet abonnement, il te coûte cher, plus il y a des contreparties. Et c'est-à-dire, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à 8000 points, à 8400 points, à 8800 points, à 9126 points en décathlon, à chaque fois, il fallait rajouter une pierre à l'édifice. Diététique, préparation physique, mentale, technique, relationnelle, chef d'entreprise. Plein de choses. À chaque fois que je voulais monter une marche dans le grade du décathlonien, j'avais l'abonnement qui allait avec, c'est-à-dire l'abonnement gold, c'est-à-dire que vis-à-vis de la société, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de moi-même, une image de moi-même. Mais à côté, il fallait que je rajoute quelque chose. La diététique, le sérieux, l'autodiscipline, le recul sur moi-même, la remise en question, etc. Ça a été des choses qui ont été essentielles pour aller jusqu'aux 9126 points. On pourrait croire que le sportif, c'est de l'expression pure physique. Mais clairement, derrière... Et je crois que la plus grosse problématique du décathlonien, c'est la blessure, clairement, pour faire en sorte d'être le moins blessé possible. Mais j'ai dû creuser dans plein d'endroits différents et plein de domaines. Et ça a clairement créé l'homme que je suis aujourd'hui, parce que ça a façonné mon caractère, mon mental, l'approche sociale que j'ai vis-à-vis des gens, etc.
L'approche sociale ?
Ouais, j'étais quelqu'un de très timide, qui avait beaucoup de mal à m'exprimer en public. Et j'ai rencontré des gens, je les voyais, ils étaient là, ils déconnaient avec les médias, ils déconnaient devant la caméra. Et dès qu'ils prenaient le micro devant des centaines de personnes, ils faisaient une petite blague, ça relâchait tout le monde. Et si j'ai bien une qualité, c'est que j'arrive à copier les gens dans leur qualité. Donc à chaque fois que je voyais quelque chose que quelqu'un faisait et qui était bien... je le gardais en tête et j'essayais de le reproduire. Et petit à petit, j'ai réussi à créer la personne que je suis aujourd'hui. Et vous en faites votre aspect critique, mais je suis assez fier de moi aujourd'hui.
Ouais. T'as l'impression d'avoir évolué comme ça depuis.
Je suis content de la personne que je suis. Je serai jamais rassasié de l'athlète que je suis. J'aurais toujours envie de faire mieux. Mais la personne que je suis devenu, j'ai l'impression d'être une personne bienveillante envers les autres. J'ai compris plein de choses qui font que, peu importe si je meurs demain ou si je meurs dans 80 ans, j'aurai aucun regret.
Il y a un aspect très méthodique, j'ai l'impression, dans ta façon de voir la vie d'une manière générale. Et tu vois, là, tu le confirmes aussi en te disant « Ok, j'ai vu quelqu'un qui faisait un truc qui m'intéressait. Je me suis dit « Ok, je vais le prendre ça, je vais peut-être le mettre à ma sauce, etc. » et faire en sorte de l'intégrer. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi qui a fait ton succès en décathlon, parce que j'ai pas l'impression que tu sois le plus costaud, le plus balèze, le plus fort physiquement. En revanche, en termes de technique, t'as l'air d'être ultra zinzin, quoi. Et zinzin, dans le bon sens du terme.
C'est clairement ça mon point fort. C'est la vitesse d'apprentissage que j'ai eue. Un spécialiste du centimètre haie ou du javelot vous dira qu'il sera jamais à 100% de maîtrise de sa discipline. Un décathlonien aurait 10 fois plus de travail à faire que lui pour avoir la même maîtrise. Donc nous, c'est une course dans notre carrière. C'est une course à la maîtrise technique. Et pas que à l'optimisation de notre performance physique purement bestiale. Et je pense que ce qui m'a permis d'être moyen dans toutes les épreuves, pas aussi fort qu'un spécialiste dans chaque épreuve, mais moyen, c'est-à-dire que je n'ai aucun point faible, c'est les raccourcis que j'ai pu prendre dans l'apprentissage technique de chaque épreuve, notamment les lancers, là où beaucoup, beaucoup de décathloniens pêchent. Je fais un travail beaucoup plus visuel, beaucoup plus approfondi pour que chacune de mes répétitions soit le plus qualitatif possible pour enlever le plus possible de quantité et avancer le plus vite possible sans pour autant me blesser, parce que plus il y a de répétitions, plus il y a de chances de blessure.
Ok. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu as appris plein de choses qu'on ne voit pas en tant que public. C'est quoi le truc? C'est quoi pour toi la leçon que tu retiens le plus de tes 10 ans de carrière là, d'un truc qu'on ne saurait pas nous en tant que public et qui t'as l'impression qui t'a forgé le plus, quoi?
Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Putain. Mais s'il y avait bien un truc que je pourrais donner comme conseil pour s'épanouir dans ce qu'on aime, c'est que les émotions sont variables et que si on rajoute pas un petit peu d'autodiscipline à notre pratique et qu'on est esclave de nos émotions, ça pourra pas durer. Je m'explique. La motivation, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça va, ça vient. Il y a des moments, si vous faites pas les choses quand vous êtes pas motivé, vous pourrez pas devenir... Ça dépend en fait des objectifs que vous fixez. Hein. Ouais. Si vous voulez être meilleur régional, ça pourra le faire. Ouais. Mais si je veux être le meilleur du monde un jour où je suis pas du tout motivé, il faut que j'y aille quand même. Mmh. Et ça s'appelle l'autodiscipline. C'est quelque chose de beaucoup plus linéaire que les émotions. Un jour, je vais être motivé, je vais mettre 10 minutes à y aller. L'autre jour, je vais mettre 30 minutes à y aller. Mais si j'y vais et que je fais le même travail quand je suis motivé que quand je suis pas motivé, ça s'appelle l'autodiscipline. Et c'est en général ce qui fait beaucoup la différence sur des années et des années de pratique. Parce que comme je disais, tu as ton abonnement et plus tu passes d'heures... plus tu peux avoir un abonnement en haut. Et pour moi, le premium, c'est le champion olympique, le record de man du monde, etc. Mais là, il faut avoir 80 000 heures de pratique. C'est vraiment l'abonnement qui demande le plus d'engagement possible.
Tout cet aspect émotionnel, tu l'as appris où?
Je l'ai appris avec des mentors, des gens que j'ai rencontrés. Je suis très curieux. Je suis quelqu'un de très curieux et je suis très intéressé par la carrière de n'importe qui, en fait. Et comme je disais, je suis pas un spécialiste de l'invention, je suis un spécialiste du copiage. Je suis un peu comme Kakashi dans Naruto, je suis ninja copieur, clairement. Je suis pas le meilleur physiquement, etc.
Petite rêve Naruto,
ouais,
hein,
je l'ai lâché, je suis content. Mais clairement, c'est ça, je pense que écouter les gens, c'est beaucoup plus important que de parler, en fait. Et dès que je suis avec quelqu'un qui, je sens, a eu des expériences intéressantes, je vais être collé à ses lèvres et l'écouter. Et je suis obligé de faire ça parce que je suis très mauvais lecteur. C'est-à-dire, je suis très mauvais lecteur. Je mets à peu près 5 minutes à lire une page. Enfin, 5 minutes. Je sais pas, je me suis pas calculé, mais.
Oui, c'est pas un
truc. Je lis très doucement. Donc, c'est très bien de lire comme ça quand tu lis Harry Potter ou d'autres romans comme ça où t'en as pour 3 mois et tout. Mais clairement, pour apprendre des choses, c'est pas le plus rapide. Donc, je regarde beaucoup de conférences. J'écoute beaucoup de sportifs. Je rencontre des gens très intéressants grâce. En fait, j'en rencontre de plus en plus intéressants au fur et à mesure de ma carrière. Parce
grâce à ton abonnement premium, c'est ça.
C'est ça. Mais je rencontre les autres abonnés, en fait. Et ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Mmh. Et quand je vais voir Djokovic jouer au tennis à Roland-Garros et que j'écoute son discours à la fin de sa vie, après qu'il ait gagné, quand j'écoute Federer, quand j'écoute Stephen Curry, quand j'écoute Stéphane Holm, sauteur en hauteur quand j'étais petit, plein de gens comme ça... ont à un moment donné une phrase, un mot qui vibre dans ma tête et je crois beaucoup à l'instinct et quand ça vibre dans ma tête je me dis je vais essayer. J'essaye ça marche pas et ainsi de suite. C'est l'essai-erreur, essai-erreur. J'ai pas toute ma vie pour faire ça, le sportif est malheureusement a une petite carrière, mais aujourd'hui en tant que record du monde je peux pas non plus écouter d'autres décathloniens parce que je suis arrivé là où personne n'était arrivé et à un moment donné il faut que je trace ma voie et je suis obligé de faire des erreurs pour trouver les bonnes solutions.
On a une passion toi et moi en commun, le basket.
Ouais.
Je t'ai vu sur tes réseaux sociaux, tu fais des one-on-one sur un terrain, c'est ça, chez toi?
C'est ça,
dans le sud. Qu'est-ce qui te plaît dans le basket à ce point? Parce que j'ai un peu l'impression que t'as une vraie passion pour ce sport en particulier plus que pour les autres sports, ou je me trompe?
Je trouve que c'est le décathlon du sport co.
Ouais.
Parce qu'il y a tellement de manières de marquer, tellement de manières de défendre, tellement d'aspects du jeu tactique, technique, physique qui m'intéressent. Je veux dire, tu peux être petit, très grand. Chacun trouve sa manière d'y arriver, et notamment Kyrie Irving, si on lui enlève un peu son aspect mental un peu spécial, où il part en cacahuète à peu près tous les ans. Sa manière de jouer, alors qu'il est beaucoup plus petit que les autres, il fait ma taille, je crois, il fait 1m90, non, un peu plus grand quand même, mais je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est un sport où, pareil, il faut prendre des raccourcis, il faut progresser le plus vite possible parce que plus t'as de skills et plus sur le terrain, tu pourras être au-dessus. Et c'est pareil pour moi le décathlonien, il faut qu'il ait le plus vite possible de grandes skills. Et après, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans le basket aussi, hein, c'est qu'on fait du décathlon et on joue au basket.
Ah.
Et le manque de jeu dans le décathlon me manque un peu des fois, ce trop sérieux de l'athlétisme. Je le retrouve pas du tout dans le basket où t'es là et tu peux être à 80% et quand même faire un truc incroyable, alors que si t'es à 80% en 100 mètres, clairement ton temps il est horrible. Donc c'est cet aspect là, c'est deux choses que je viens de dire qui me plaisent énormément.
Il y a un côté, j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un côté collectif que pour le coup tu n'as pas dans le décathlon, quoi. T'es tout seul face à ton truc, alors t'as des coachs etc, mais dans la... Une fois que t'es sur le terrain, sur la piste, t'es tout seul, quoi.
C'est ça, t'es tout seul. Et partager une perte ou une gagne, je trouve ça incroyable. C'est des émotions à partager que je trouve incroyables. Et je pense que j'aurais été un très bon coéquipier. Et c'est quelque chose qui me manque énormément. Quand je joue au basket avec mes potes et que j'encourage le mec qui est un peu moins fort que moi et que j'écoute les conseils du mec qui est plus fort que moi, je trouve ça incroyable, en fait. Et je trouve que c'est, encore une fois, être en accord avec soi-même. C'est, je sais que je suis moins fort que lui, je sais que je suis plus fort que lui. Qu'est-ce que je peux apporter à l'un? Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Et ainsi de suite. C'est toujours ce truc-là. On en revient à ce qu'on disait au début. Et c'est vrai que quand t'es tout seul sur la piste, toutes tes émotions, elles sont pour toi et partagées avec le public, bien sûr, partagées avec tes coachs et tout. Mais je veux dire, quand tu fais une passe D à un mec et qu'il te lâche un gros dunk, des fois, c'est limite plus stimulant que quand c'est toi qui lâches le dunk. Donc,
bien sûr. Vous êtes deux à kiffer dans ce cas-là.
C'est ça. Et puis, l'émotion est partagée. Tu tapes dans la main de ton partenaire, vous venez de faire quelque chose. Et quand t'es tout seul, bon, après, tout le mérite est pour toi, bien sûr. Mais il n'y a pas cet aspect de partage d'émotions. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre et que j'ai vécu quand j'étais jeune, en fait. J'ai fait beaucoup de sport co étant jeune.
Ouais. Je t'ai entendu dire ta passion pour Interstellar.
Ouais.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ce film ?
Alors, une de mes phrases favorites, c'est un ami qui l'a dite et je lui reprends beaucoup et ça va parfaitement avec ma manière de fonctionner, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et quelle meilleure manière de ne pas se prendre au sérieux que lorsqu'on se rend compte de la place qu'on prend dans l'univers.
Ah ouais.
Voilà. Et j'adore l'astronomie grâce à ça. C'est dès que je regarde le ciel, je me dis, mais je suis tout petit et j'oublie tous mes problèmes en 5 secondes. En fait, on se crée des problèmes vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de notre travail, vis-à-vis de notre maison. Enfin, il y a plein de petits problèmes comme ça qu'on est en train de se créer dans la tête des fois mentalement. Et quand je fais de l'astronomie, je suis là, je regarde les étoiles, je prends en photo les étoiles et je fais, mais en fait, mais tous mes problèmes, c'est de la poussière. C'est, ils sont, en fait, mes problèmes dans ma tête, ils sont comme ça. Et par rapport à l'univers, ils deviennent un grain de sable dans l'océan. Mmh. Et c'est ma manière à moi de relativiser. La première fois que j'ai eu cette sensation, c'est quand j'ai regardé Interstellar.
Ah, ok.
J'ai été long à répondre. Du coup, je reviens à Interstellar. Ce film m'a plu. Tout m'a plu. L'aspect scientifique, parce que je viens quand même d'un monde assez scientifique où j'adore la physique, les maths, etc. Et je trouve qu'ils ont tellement poussé la science dans ce film et ils ont réussi à la rendre abordable et à nous la faire comprendre. Mmh. Et même aller au-delà de ce qu'on savait quand ils rentrent dans le trou noir, etc. Ouais. Ça a été une révélation pour moi. Et depuis, je me suis acheté du matériel d'astronomie, je fais de l'astrophoto, okay, etc. C'est quelque chose qui me plaît énormément.
J'ai une petite reco alors pour toi. Il y a une série qui s'appelle sur Apple TV qui s'appelle For All Mankind.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu, mais c'est incroyable, c'est sur 3 saisons. En gros, ils partent du principe que c'est les Russes qui auraient d'abord posé le pied sur la Lune avant les Américains. Et en fait, à partir de là, la conquête spatiale ne s'arrête jamais. Mm. Et donc, c'est incroyable. Si t'aimes vraiment le voyage spatial,
sur Apple TV.
Sur Apple TV.
D'accord.
Très, très bonne série. Si t'aimes l'aspect voyage spatial, c'est incroyable.
C'est moi, tout ça, j'adore. Seul sur Mars, etc.
Ah bah oui.
Je sais pas que j'aimerais bien être Thomas Pesquet et être dans une cabine pendant 6 mois. Hein. Non, c'est juste répondre aux questions. Comment dire, répondre aux questions qu'on n'a pas encore, quoi. Mmh. Se rendre compte. Je veux dire, la gravité, on connaît son effet. On n'a toujours pas compris d'où ça venait. Pourquoi les gros objets interagissent entre eux, de la manière dont ils interagissent à plus petite échelle, on n'a toujours pas compris comment ça marchait vraiment, parce que enfin, moi, je regarde en ce moment des études sur l'intrication quantique d'un atome que quand on le brûle, il y a un autre atome dans l'univers qui pourrait agir de la même manière parce qu'ils ont été à un moment donné en contact, etc. Enfin, c'est des trucs comme ça que je trouve incroyables et qu'on ne sait pas. Et j'aimerais bien vivre très longtemps pour découvrir encore plein de choses.
Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Est-ce qu'il y a cet aspect curiosité aussi de te dire, ok, de pousser plus loin le...
C'est que de la curiosité. Et je pense que dans l'athlète et dans le sport en général, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'optimiser au maximum ma performance physique par ma santé corporelle. C'est-à-dire de tout faire pour devenir un surhomme, en fait. Pour devenir le meilleur au décathlon, il faut être...
Bah oui.
Entre guillemets, un surhomme, même si je me qualifie en aucun cas, je me sens pas.
Dieu du stade.
Voilà,
enfin.
Non mais voilà quoi. Non mais c'est. mais comment faire pour optimiser au maximum alors que mon corps à la base, hein, encore une fois, l'ancien recordman du monde, Ashton Eaton, physiquement était mais largement plus fort que moi. Il pouvait faire bien mieux. Techniquement, il était moins fort, mais il avait un potentiel bien plus fort que moi. Le jour où j'ai fait mon record du monde, j'étais à 97% de mes records. Ça s'est jamais vu dans un décathlon à plus de 1500 points. Donc c'était du jamais vu, mais j'aimerais vraiment un jour arriver à 100%. C'est pas que j'aimerais arriver à 100%, c'est que j'adore tout faire pour essayer d'y arriver. En fait, je me lève le matin et je suis là, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour être plus fort demain ? Et chaque jour, c'est comme ça.
Okay.
Et 365 jours et 20 ans de carrière. Ben, ça fait une progression quand même assez, assez incroyable.
Et t'appréhendes un peu dans cet aspect-là ton après-carrière ? Parce que pour le coup, c'est plus le même dépassement de soi. C'est plus le dépassement de soi physique. Il y a peut-être autre chose qui vient derrière.
C'est l'aspect physique me plaît énormément. Donc, je pense que je garderai toujours un sport. Je garderai toujours dans l'optique de vieillir de la meilleure des manières. Et clairement, on commence à vieillir que quand on abandonne. Que quand on s'abandonne. Que quand on fait rien pour contrecarrer le vieillissement, en fait. Parce que clairement, on commence à vieillir à partir du moment où on commence à ouvrir les yeux à notre premier jour de naissance, clairement. Donc,
ça te fait chier de vieillir ?
Non, mais je me vois pas vieillir, moi, en fait.
Ok.
Je sais que certains me disent que je suis fini dès que je me blesse, mais en 2013, j'ai déjà abandonné une compète à cause d'une blessure. Et j'ai l'impression d'avoir limite un peu moins de temps en temps en ce moment que quand j'avais 20 ans. Donc, clairement, je sais que j'ai de plus en plus de dettes. À chaque fois que tu te tords la cheville, à chaque fois que tu te fais une déchirure, c'est une cicatrice, c'est une dette. Je sais que c'est de plus en plus dur, mais j'ai de plus en plus de connaissances pour contrecarrer mon vieillissement. Donc, je pense que je peux réussir à durer. C'est pour ça que j'essaie de pas trop penser à l'après-carrière, même si j'ai des projets en après-carrière qui sont en stand-by et ils commenceront dès que j'arrêterai ma carrière.
T'as déjà des projets ?
Oui, bien sûr. Je connais ce que les sportifs appellent la petite mort et je veux absolument pas la vivre, donc je me prépare à ça. Je sais que du jour au lendemain, quand on n'a plus aucun objectif, quand on se lève, j'imagine que ça doit créer un gros vide. Donc, je vais essayer de le remplir le plus vite possible après. Ouais.
C'est bien aussi d'appréhender un peu le vide, tu vois, émotionnellement. Tu vois,
Non, bien sûr, mais je ne vous cache pas que les 2 mois de vacances aux Caraïbes, après, ça fera du bien. Mais non, mais je pense que... comment dire, encore une fois, si on se regarde par rapport à l'univers, on se rend compte qu'on ne sert vraiment à rien. Et que l'homme se donne de l'importance tous les jours, mais il ne sert vraiment à rien. Tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a créé autour de nous, clairement, on l'a créé pas vis-à-vis de notre ego et vis-à-vis du fait qu'on avait envie de s'occuper. Mais clairement, les amis, tous vos métiers, ils sont là, qu'on soit dans le marketing, dans le commerce, il n'y a rien qui est primordial. Je veux dire, on est une espèce comme les autres et je veux dire, si la moitié de la population meurt aujourd'hui, il n'y a rien qui fera que 1% de l'univers va changer.
Ça fait relativiser pas mal.
Voilà. Donc, ça paraît hyper pessimiste comme ça, mais pour finir, je profite vraiment de l'instant présent pour me dire comment je pourrais croquer le plus possible la life. Et comment croquer le plus possible la life, c'est sans cesse faire des choses pour ressentir du bonheur à long terme. Et clairement, je me suis rendu compte que le bonheur à long terme, il n'était pas dans le confort, il était dans l'inconfort.
Ouais.
Et c'est ça que je retrouve après le décathlon, et c'est ça que j'ai envie de retrouver après ma carrière.
D'aller vers l'inconfort alors.
Toujours de me pousser en fait, ouais. De me pousser, de chercher mes limites, oui, c'est ça, de me pousser vers l'inconfort.
C'est quoi tes peurs? Parce que j'imagine que d'aller vers la confort, c'est d'aller vers ses peurs aussi, quoi.
Pour être honnête, j'ai ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir pourvoir à ma famille comme j'aimerais le faire quand j'en aurai une. C'est-à-dire, okay. Pour l'instant, je suis fiancé, on a des projets d'avoir des enfants, etc. À un moment donné, je veux que mes enfants puissent voir le monde entier, puissent avoir les meilleures expériences possibles. Et pas forcément leur acheter tous les habits du monde, leur acheter tous les... le matériel du monde, mais c'est vraiment à aucun moment donné me dire bon bah non, là on est ric-rac, on peut pas les emmener à la mer ce week-end, on peut pas aller faire du surf par-ci par-là, je peux pas leur acheter ce matos pour faire cette discipline. Non, moi je veux qu'ils vivent leur rêve comme j'ai vécu mon rêve. Et peut-être que ma plus grande frayeur c'est de pas pouvoir pourvoir à ça.
Okay. Justement, on parle d'argent et on est chez Gillette là aujourd'hui pour une journée. À quel point c'est important pour un sportif comme toi d'avoir des sponsors, et quelle place ça prend dans ta vie de sportif?
Encore une fois, c'est une histoire d'abonnement.
Ah oui. Ouais.
Je veux dire, à un moment donné, l'accompagnement financier comme la confiance dans un projet est primordial si on veut être meilleur du monde. Je veux dire, encore une fois, si tu veux être champion régional, t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de... En fait, clairement, j'aime pas trop cette expression, mais le temps, c'est quand même de l'argent. Vraiment. Si j'avais aucun sponsor, je devrais travailler à côté du décathlon. Ce serait impossible si je voulais devenir meilleur mondial. J'ai dû arrêter mes études alors que j'ai été éduqué dans un mode études après le sport, hein, clairement. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu me qualifier au jeu, je me suis rendu compte que c'était impossible.
En 2012, donc, c'est ça.
Ouais, c'est ça, d'être en IUT et d'aller en cours comme tous les autres le faisaient. Donc, j'ai fait un choix, j'ai pris un risque. J'ai pris le risque de me dire, aujourd'hui, j'ai des sponsors qui me permettent de continuer jusqu'à ce que ça ne marche plus et que je puisse reprendre les études. Et c'est grâce à mes sponsors qu'en fait, j'ai eu le repos d'esprit. C'est vraiment du repos d'esprit de se dire, je peux me reposer sur eux pour avoir le matelas financier, de tout donner dans la clé, de voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, de reprendre les études. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui flambe en boîte tous les soirs. Donc, j'aurai ce qu'il faut pour reprendre mes études si j'arrête l'athlétisme. Donc, c'est même pas ça a un aspect financier, ça a un aspect vital. Et d'un point de vue stress, je connais des athlètes qui ont pris le risque sans sponsor d'aller dans ma voie, d'arrêter les études et tout. Mais en fait, tu peux pas parce que le stress, ça, c'est un mauvais stress. Le stress de la compète, c'est un bon stress. Le mauvais stress, c'est tout ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Si je n'y arrive pas, je n'aurai pas d'argent et je n'aurai pas fait d'études, je serai dans la merde. C'est quelque chose... C'est l'appréhension du futur qui est horrible. Ça crée un stress. Le stress sécrète des fluides. C'est pas des corticoïdes. Je sais plus ce que c'est. Sécrète une hormone en gros dans le corps qui est hyper inflammatoire et qui est mauvaise pour les blessures en fait. Donc en fait, moins on se sent accompagné, plus on est stressé, moins on peut performer, plus on se blesse. Donc
c'est vicieux. Voilà.
J'ai toujours cherché des partenaires qui voulaient durer dans le temps et qui aussi étaient passionnés de sport comme je l'étais, parce que je pense que tu peux pas communiquer comme ils ont envie de communiquer si t'es pas en accord avec eux. C'est comme au début d'être en accord avec soi-même, en fait.
On y revient.
C'est ça.
Dernière question que je voulais te poser, c'est tu travailles avec ton frère.
Ouais.
Pour revenir à la fratrie, ton frère est ton manager, ton grand frère.
C'est ça. C'est le premier que j'ai embauché parmi mes proches. C'est mon frère en 2018. 6 mois après, je battais le record du monde. Bon, je crois que c'est pas que grâce à lui, mais non, c'est quelqu'un qui travaille très bien, avec qui je m'entends très bien. Et j'ai beau être chef d'entreprise et que ce soit mon salarié, je ne l'appelle jamais pour lui demander ce qu'il fait. J'ai une confiance aveugle en lui. Et encore une fois, c'est du repos d'esprit d'avoir quelqu'un qui gère tout autour de soi pour que je n'ai plus qu'à penser préparation physique, technique, entraînement. C'est pour ça que dans cette même optique, j'ai embauché mon ami d'enfance avec qui j'ai commencé l'athlé, qui avait 2 ans de plus que moi, qui était meilleur que moi à l'athlé au début.
Qui est ton entraîneur, c'est ça ?
Qui est mon entraîneur maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Et l'année dernière, j'ai embauché ma copine qui est devenue kiné, avec qui, pendant toutes ces années d'études de kiné, en fait, j'étais avec elle. Et limite, j'ai acquis certaines connaissances en matière de kinésithérapie, d'ostéopathie, de tout ce qui va avec, hein, clairement.
Grâce à elle.
Donc, grâce à elle et elle grâce à moi. Donc, on a discuté de ça. Et c'est vrai que ça semblait tellement logique qu'elle continue à se former avec des gens qui en savaient plus qu'elle, bien sûr. Mais qu'à côté, elle devienne ma kiné et qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, pour être honnête, avoir sa salle de muscu chez soi et avoir son kiné chez soi ou... pas se dire faut que je finisse ma muscu très rapidement parce que j'ai rendez-vous à 17h avec le kiné. Là elle attend que j'ai fini et après elle me fait ma séance, et si ça dure une demi-heure parce que j'ai rien, tant mieux pour elle. Mais des fois j'ai quelque chose et là ça dure 2 heures. Et en fait cette adaptation, cette version adaptative de toute ma récup fait que c'est le plus efficace possible.
Ok.
Mais c'est à double tranchant, il faut faire très attention, surtout dans une relation amoureuse comme ça. Il faut savoir mettre des priorités, avoir des grosses discussions avant de commencer.
Et puis mettre des limites, j'imagine, parce que à quel moment vous êtes dans le couple, à quel moment vous êtes au boulot, enfin c'est...
C'est exactement ça. C'est le boulot, c'est le boulot, et la vie, la vie perso, c'est la vie perso. Et on arrive à faire en sorte que ça marche, et même quand des fois ça dérape un peu, on revient vite vers là en se disant, le travail, c'est le travail.
Merci beaucoup, Kevin. On arrive à la fin de notre temps, là, qui est imparti. Je mettrai tous les liens dans tes réseaux sociaux où tu viens partager très régulièrement ton amour pour le basket, bien sûr, mais aussi plein d'autres choses. Ton site internet, et on n'a même pas parlé, mais j'aimerais bien mettre un lien vers une vidéo aussi de la meilleure expérience qui est un peu ton dada de justement faire découvrir le décathlon, quoi.
C'est ça.
En France.
C'est ça. Le message, c'est clairement, tout le monde pense que le décathlon, c'est élitiste parce que c'est un sport difficile, mais chacun peut le pratiquer à son niveau. Et comme je vous l'ai dit, en tant que décathlonien, c'est un des sports où je me suis senti le plus accompli de ma vie. Et clairement, je le conseille à tous, à n'importe quel niveau.
Merci Kevin, c'était avec génial. Plaisir. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.